connecté, c'est ça? Oui. Donc je suis connecté au niveau du son, mais que le Seigneur me connecte aussi à l'Esprit de Dieu, hein, qu'il m'aide. Et je veux remercier le groupe de louanges. On ne s'est pas concerté avec Daniel, mais ils ont pris des chants d'adoration. Des chants de louanges d'adoration. Et mon thème, ça rejoint mon thème, et ça me donne vraiment une assurance. Nous adorons Adonai. Mon thème, c'est « Quelle adoration devons-nous avoir pour ce temps ?» L'adoration que nous devons avoir pour ce temps. Un jour, les disciples sont venus auprès de Jésus et lui ont demandé « Dis-nous, quels signes devons-nous observer pour voir la fin des temps ?» C'est-à-dire que les disciples ont été voir Jésus-Christ pour se demander, il vivait un certain temps et il voulait savoir quel temps il vivait par rapport au temps de la fin. Et le Seigneur n'a pas donné de date. Hein, il y a personne qui a une date précise sur la fin des temps ou le retour de Jésus-Christ. Mais le Christ a demandé d'observer les signes. Des signes qui sont avant-coureurs, qui annoncent l'arrivée de Christ. Et il y a un frère qui a prié durant la Sainte Cène, prié pour le retour de Jésus. C'est vrai qu'il faut se tenir prêt au retour de Christ. Et donc les apôtres n'ont pas eu forcément une réponse bien précise en disant, voilà, c'est tel jour, telle date. Mais le Christ leur a dit, écoutez, il y aura des signes. Et nous devons être, il faut qu'on observe ces signes, il faut qu'on ait cette clairvoyance des signes qui nous entourent, de savoir dans quel temps on vit. La parole de Dieu est remplie de réponses par rapport à ces signes de la fin des temps. Suivant certains théologiens, 30%, c'est-à-dire un tiers de la Bible, parle des signes de la fin des temps, ou du retour de Jésus-Christ. Un tiers de la parole. Et sur ces prophéties, il y a 4/5 des prophéties, 4/5 qui ont été accomplies. C'est-à-dire qu'il nous reste 20% des prophéties pour le retour de Christ qui restent devant nous. Mais ce qui m'interpelle le plus, c'est ce qu'il y a de marqué dans Matthieu 24. On ne va pas prendre le passage. Hein. Mais le Christ dit qu'au moment de la fin, ça sera comme les douleurs de l'accouchement. Quand une femme doit mettre au monde un enfant, on sait que les contractions deviennent de plus en plus intenses et le temps est diminué. Et les temps de la fin, c'est pareil. On verra des signes, mais on verra aussi une intensification des signes, des choses qui vont apparaître et revenir, et il y aura une intensification des signes. Il y a des choses qui prennent place particulièrement par rapport au signe des temps de la fin, particulièrement dans notre temps. Et le signe de l'adoration, et je vais vous le développer, c'est un signe de la fin des temps. On va le voir, il y a deux sortes d'adoration. Il y a une adoration qui prend place dans le monde extérieur, et il y a aussi une adoration que le Seigneur donne au sein de son Église. Donc le signe de la fin des temps, donc on le voit, on peut le voir dans les actualités. Donc il y a des signes qui sont visibles dans l'actualité avec les catastrophes naturelles et d'autres choses. Il y aura aussi des signes qui seront visibles dans le peuple de Dieu. Il est marqué que dans la fin des temps, Dieu va répandre de son esprit sur toute chair. Il y aura une bénédiction particulière. Et en parallèle, tu m'entends pas aussi, ça va ? En parallèle, il y aura une bénédiction profonde dans l'Église. Il va y avoir une foi grandissante et en parallèle, il y aura aussi un refroidissement, une apostasie, un refroidissement de la foi. Il y aura des signes qui seront présents dans l'Église, mais aussi présents dans le monde extérieur. Et le signe de l'adoration, l'adoration est un de ces signes. C'est-à-dire qu'il y a une adoration qui vient dans l'Église, mais il y a aussi une forme d'adoration à l'extérieur. Beaucoup de gens à l'extérieur de l'Église, même s'ils ne s'agenouillent pas devant une statue ou devant quoi que ce soit, sont des adorateurs. C'est-à-dire qu'ils se donnent à quelque chose. L'adoration, c'est ça, se donner entièrement à. Et on le voit bien à l'extérieur des murs, tout ce qui est au niveau des stars, des vedettes, il y a une adoration, une adulation par rapport aux gens. Et on sait que la Bible nous en parle, que dans les derniers temps, il y aura une intensification de cette adoration. Des gens qui seront consacrés, obsédés, possédés, passionnés par autre chose que Dieu. Il y a un texte qui appuie bien ces propos, c'est dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 4, je vous le nomme. Donc il commence ce verset en disant « Sachez que les temps, que dans les derniers temps, il est marqué que les hommes adoreront leur plaisir plus que Dieu. » Dans les derniers temps, les hommes adoreront leur plaisir plus que Dieu. Les gens seront tournés vers leur plaisir, vers la sensualité, la sexualité, les sports, les hobbies, les vacances, la musique, les festivals. Les festivals, il y en a partout. Festival de ceci, festival de l'humour, festival de cela. Donc il y a quelque chose qui prend place dans notre société. Hein? Imaginez, à notre époque, il y a vraiment une adulation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les médias, l'Internet, le cinéma, etc., une personne peut avoir une dévotion de milliers de personnes aux alentours seulement par ces médias. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui prend place dans notre société. N'importe qui, par les médias, peut avoir une adulation de milliers de personnes qui n'était pas possible auparavant. Bon, en général, tout le monde est un adorateur. Donc, ce n'est pas la question que je vais vous poser. On est tous des adorateurs. Mais qui voulons-nous adorer ? Est-ce qu'on veut adorer celui qui est entièrement fidèle, entièrement amour, entièrement éternel, entièrement Dieu, entièrement Seigneur ? Jésus-Christ est mon roi. Donc pour appuyer pour vous donner quelques points sur l'adoration, quelle adoration devons-nous avoir durant ces temps de la fin, ces temps perturbés ? Eh bien, je voudrais m'appuyer sur le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, c'est un livre d'adoration. Le livre de l'Apocalypse, c'est un livre d'adoration. Ce n'est pas uniquement la révélation de l'Antichrist, de toute une série de bêtes, de le feu, etc. C'est la révélation de celui qui est vivant, celui qui trône, celui qui est vivant et qui a tout sous son contrôle, Jésus-Christ. Hein, durant ces temps perturbés, l'Apocalypse a été écrit à un moment de perturbation. Il y a eu un empereur romain qui persécutait les chrétiens. Il y avait aussi une crise économique assez forte. Et l'Apocalypse est venu à ce moment-là pour encourager les chrétiens qui vivaient ces moments difficiles en disant « Je suis celui qui règne ». Amen. Je suis celui qui règne. Donc l'Apocalypse, ce n'est pas forcément un livre uniquement pour qu'on puisse argumenter des tas de points, mais c'est un livre qui doit se lire comme un cœur d'adorateur. Hein. C'est une invitation à adorer. Alors trois petits points que je voudrais voir avec vous ce matin. Dans l'adoration, c'est la révélation de Jésus-Christ. Quand on adore, Jésus-Christ veut se révéler là où tu es. Dans l'adoration aussi, le Christ veut nous donner une nouvelle perception de ce qu'il est, une nouvelle perception de Jésus-Christ. Et il veut nous donner aussi une vision. Alors on va pouvoir prendre, donc dans l'Apocalypse, au chapitre 1, à partir du verset 9. On va lire du verset 9 au verset 12. Moi, Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. » Amen. La révélation de Jésus-Christ. Jean dit, je vais me détourner pour découvrir et voir qui me parlait. Je prie ce matin que Dieu puisse nous donner une révélation de lui, une révélation de Jésus, là où tu es. Ce matin, qu'on ne ressorte pas uniquement avec de la connaissance sur les signes, mais qu'on puisse ressortir, comme on l'a chanté, avec un amour, une affection pour Jésus, un engagement, une adoration vis-à-vis de Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ veut se révéler d'une façon personnelle à chacun d'entre nous? Je sais que vos cœurs sont là, ils sont dans l'attente. Si vous êtes venu ce matin, si vous venez le dimanche matin pour écouter les cultes, parce que vous avez cette soif, il y a une soif dans vos cœurs de connaître Jésus-Christ. Et je crois et j'en suis convaincu que Dieu veut se révéler à ton cœur. Mais là où tu es, il nous est dit que Jean était sur l'île de Patmos. Jean est sur l'île de Patmos. Patmos, c'est une île, carcérale. Île où, on y va pour mourir. C'est une île où, il fait chaud la journée. C'est une île terrible. Et Jean est au milieu de cette île. Il n'a rien fait de spécial. Il a été pasteur d'une région d'église. Il a annoncé le Seigneur Jésus-Christ et ils l'ont mis sur cette île, au milieu de prisonniers, au milieu de gens qui avaient commis des violences. Et j'aimerais qu'on se mette dans la peau de Jean ce matin. Et il est sur l'île de Patmos. Il est loin de tout. Il doit se sentir loin de l'amour de Dieu, hors de sa volonté, hors de son attention, hors de ses plans. J'étais à un endroit appelé Patmos. Il était sur l'île de Patmos, loin de tout. Et c'est à l'île de Patmos qu'il a eu une révélation de Jésus-Christ. Amen. Je pense que vous voyez un petit peu là où je veux arriver. Jésus s'est trouvé là où il se trouve, dans l'île de Patmos. Et ma question, c'est sur quelle île ce matin te trouves-tu? Je pense qu'il y a des personnes qui doivent se sentir sur une île, un peu comme Patmos. Peut-être que c'est un lieu désertique, un lieu de sécheresse spirituelle, où tu te situes sur une île d'inquiétude. Tu t'inquiètes pour ta famille, pour tes enfants. Un lieu de déception, un lieu de fatigue spirituelle. Tu te trouves peut-être sur une île nommée Patmos ou une île nommée chute morale, tentation secrète, péché. Mais Jésus-Christ veut se manifester là où tu es, sur ton île. Si vous parlez avec un inconverti, vous parlez de Dieu, de l'Église, et certains vont vous dire, mais bon, avant de venir dans une Église, j'aurais certaines choses à régler avant de venir. Et vous allez lui dire, mais écoute, non, viens tel que tu es. Viens tel que tu es. Dieu veut te transformer, mais viens tel que tu es. Je crois, mais j'en suis convaincu, Dieu veut te rejoindre là, sur ton île. Jean était sur l'île de Patmos. Il n'était pas au bord d'une piscine avec un cocktail dans la main, non. Il était à Patmos et c'est là que Jésus-Christ s'est révélé à lui. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent des choses dans lesquelles ils s'enlisent au fur et à mesure. Et il y a un moment, ils se disent « Je suis perdu, Dieu ne me voit pas, Dieu ne m'aime pas. » Mais Jésus-Christ veut te trouver là où tu es, sur ton île de Patmos. Si on arrive à avoir ce cœur d'adoration dans ton île, là où tu es, il faut lâcher toute chose et avoir cette adoration, Dieu veut se révéler dans ton île de Patmos. Je crois que plusieurs personnes ici peuvent en témoigner. Certaines personnes sont passées par certaines îles. Des gens qui vont dire, j'étais prêt à tout lâcher. J'étais prêt à ne plus venir à l'église, j'étais prêt à tout quitter. Ils étaient sur cette île. Ou alors d'autres qui étaient dans une île qui s'appelle dépression profonde, d'autres fatigue. Mais l'Apocalypse est là pour nous dire que durant ces moments, je ne dis pas que c'est agréable cette île, mais Dieu veut nous rejoindre là où tu es, sur l'île de Patmos. Est-ce que vous le croyez ça? Amen, que Dieu veut vous rejoindre sur votre île. Le deuxième point que j'aimerais voir avec vous, c'est le renouvellement de notre perception de Jésus-Christ. Mardi soir, on a prié pour cela, que Dieu nous révèle vraiment ce qu'il est. On a besoin d'avoir une pleine révélation de Jésus-Christ. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on peut obtenir aussi dans l'adoration. dans l'adoration que Dieu nous renouvelle dans notre perception pour Jésus. Jean a connu le Seigneur. C'est quelqu'un qui a marché avec le Seigneur. Il pouvait dire qu'il connaissait le Seigneur, il a marché avec lui. Jean est celui qui a mis sa tête sur le cœur de Jésus. Et là, sur l'île de Patmos, il y a 60 ans qui s'est écoulé. Il avait environ 20 ans quand le Christ est parti. Et donc 60 ans après, il se retrouve sur cette île de Patmos. Donc il a environ entre 80 et 90 ans. Jean pouvait dire, non pas avec prétention, mais il pouvait dire, je connais Jésus-Christ. Personne ici sur la terre ne connaît mieux le Christ que les apôtres ou ceux qui l'ont côtoyé. Et Jean pouvait dire, je connais Jésus-Christ, je marchais avec lui. Mais j'aimerais vous dire que, et par rapport à ce qui ressort dans la Bible, c'est que Jean, qui le connaissait, autant que cela, le connaissait si peu. En fin de compte, il avait besoin d'une révélation. Lui qui pensait le connaître, il avait besoin d'être à nouveau renouvelé dans cette vision. Et au-delà de ce qui peut nous arriver, je crois que si on est sur une île de Patmos, si on est dans cette île de difficulté, on a besoin d'avoir une fraîche révélation de la part de Jésus-Christ. Jean, avec ses 90 ans, il pouvait dire « je connais le Christ », mais il a été obligé de se détourner pour voir qui lui parlait, pour découvrir Jésus. J'aime beaucoup ce passage parce que ça met à bas un petit peu toutes les prétentions humaines. Des gens qui disent connaître le Christ d'une façon prétentieuse. Mais Dieu a besoin de se révéler toujours à nous. Personne ne le connaît parfaitement. Il a besoin encore de se révéler dans nos cœurs. On a besoin de lui, on a besoin de le connaître encore davantage. Alors je vous invite à faire la lecture au verset 12, donc toujours au chapitre 1, au verset 12 jusqu'au verset 18. Donc Jean se retourne. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, blancs comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'ils eurent embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle et des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Amen. Je voudrais vous inviter que si vous êtes sur cette île de Patmos, que vous puissiez apprendre ou que vous puissiez développer d'ici les mois à venir à l'adorer d'une façon différente pour que Dieu puisse se révéler à vos cœurs d'une façon aussi différente. Apprenez d'ici les mois qui viennent à l'adorer d'une façon différente. Si tu passes par des moments difficiles, si tu es sur cette île de Patmos, apprends à... Et attends-toi au Seigneur pour qu'il se révèle à toi. Pourquoi je dis que Jean le connaissait si peu? Quand vous voyez la révélation de Jésus-Christ, il est marqué que donc la première chose, c'est qu'il était vêtu d'une longue robe. Une longue robe. Jean a eu l'habitude de voir le Christ sur la terre, mais avec une robe courte. La robe courte, c'est une robe qui permet de faire certains mouvements. Et le Christ, quand il était sur la terre, c'était celui qui était l'humble serviteur qui marchait vers la croix. Mais là, il a une révélation de Jésus-Christ avec une longue robe. Une longue robe. Je suis le roi des rois. Je suis celui qui est sur le trône et qui règne. Amen. Je suis le roi des rois. Je ne suis plus ce serviteur qui marche vers la croix. Je suis le roi des rois. Et Jean a eu cette révélation. Il l'a vu différemment. Mais faut se mettre dans la place de Jean à cette époque-là. Il l'a vu différemment. Il a vu aussi sa tête. Il nous est dit dans les Écritures que Jean a vu le crucifié de près. Et il a dû voir cette couronne d'épines et puis ce sang couler sur son visage. Mais là, il voit la tête recouverte de gloire. Il a la tête recouverte de gloire. Il a vu aussi ses yeux comme une flamme, c'est ce que nous avons lu. Et ça, ça nous parle que le Christ n'est pas aveugle. Il n'est pas aveugle à ce que tu vis. Il n'est pas aveugle à ce que tu vis dans ton quotidien. Il a vu ses pieds. Jean aussi a vu ses pieds à la croix, les pieds qui ont été cloués par les clous. Et ses pieds ressemblent à du bronze. Et le bronze, ça parle de l'autorité. Jésus-Christ a cette autorité. Il a les pieds de bronze. Il a l'autorité d'écraser la tête du serpent. Il a l'autorité d'écraser le péché. Il a la victoire sur toute chose. Il l'a vu différemment. Il a vu Jésus-Christ d'une façon différente. De sa bouche sort une épée. Une épée, c'est la parole de Dieu. Et si nous sommes dans l'adoration, Dieu va parler à nos cœurs. Dieu va parler à notre esprit. Sa parole va être là. Elle est agissante pour parler dans nos vies. Il a vu aussi son visage. Et comme je vous l'ai dit, Jean était au pied de la croix. Son visage, il l'a vu de près. Il a vu toute la laideur de son visage quand il souffrait à la croix. Il a vu aussi le poids des péchés qu'il a pu porter pour l'humanité. Mais là, il a vu son visage, brillant comme un soleil. Il le voit différemment. Il est beau, notre Seigneur. Amen. On en parle très peu de ça, de la beauté de Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il n'avait aucune apparence physique, mais la gloire du ressuscité, c'est quelque chose de différent. La beauté de Jésus, Christ ressuscité. Dans notre travail, ce n'est pas des sujets qu'on va développer, ce n'est pas parler de la beauté de Christ. Et Jean, je crois qu'il était loin de tout, loin de ses frères, et à un moment, il devait même oublier cette beauté. Je crois qu'on a besoin de revoir cette beauté, la beauté de l'Église, la beauté de Jésus-Christ, qu'on puisse parler. Il a vu son visage rayonnant comme un soleil, et il a vu sa main droite qui est venue sur Jean. Et le dernier point, c'est que l'adoration, quand on a ce cœur d'adorateur, je ne dis pas que c'est facile d'adorer dans des moments de l'île de Patmos, mais la Bible est un message pour nous encourager, l'Apocalypse est là, pour nous dire que les temps difficiles, les temps de la fin, les temps de la fin, c'est des temps perturbés, c'est des temps qui sont perturbés, et on vit des moments particuliers. J'annonce pas l'arrivée de Christ à un moment ou à un autre, mais la Bible est là pour nous dire qu'il faut se tenir prêt et il faut qu'on ait ce cœur d'adorateur. Seigneur, permets-nous d'avoir ce cœur d'adorateur durant ces moments difficiles. Donc je vais faire un saut maintenant dans la lecture pour vous demander de prendre au chapitre 4 de l'Apocalypse pour voir ce dernier point que j'aimerais partager avec vous. Donc, les chapitres précédents, le chapitre 2 et chapitre 3, c'est des lettres qui sont écrites aux églises. Et Jean a reçu cette révélation des lettres écrites pour les églises. Mais ce n'est pas non plus par hasard que Jésus parle de cette église à Jean. Pourquoi ? Parce que c'était ce qui était sur son cœur. Jean était un pasteur, un berger, et il était inquiet pour la persécution et ce qui se passait dans ces églises. Il était accablé par ce qu'il pouvait voir ou ce qu'il avait vu avant d'aller dans l'île de Patmos, et il était tracassé par ces églises. C'est pas par hasard que Jésus ait donné des lettres à Jean par rapport à ses églises. Si on veut comprendre le cœur de Jean dans ce moment-là, il suffit de te dire que est-ce que tu t'es trouvé certaines fois à un endroit, tu as tout fait, tous tes efforts, tu as aimé certaines choses de tout ton cœur pour qu'il y ait une amélioration, et malgré tout, tu vois que rien n'arrive. Tu as donné ton témoignage à ta famille et malgré tout, tu sembles qu'il s'éloigne ou qu'il n'y a rien qui se passe. Tu as prié pour telle ou telle maladie et puis il n'y a rien qui se passe non plus. Tu as tout donné à l'œuvre et puis tu as l'impression que la porte semble se fermer. La Bible nous parle de Jean qui est dans cet état. Il est sur l'île de Patmos, il a tout donné pour ses églises et là il est tracassé. Il sait pas ce qui se passe, il sait qu'il y a une persécution. Il a l'impression d'avoir tout donné à ce moment-là, mais que rien n'arrive. Et au chapitre 4, il est noté « Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel. » Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoise. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Donc Jean a ce cœur. Il semble que rien n'arrive. Et soudainement, il y a une voix qui lui parle et qui lui dit « Monte ici. Viens ici et monte ici. Et je te ferai voir. » Mon point est le suivant, il est très simple. L'adoration, si on a ce cœur d'adorateur, Dieu va nous donner de voir certaines choses. Il va nous permettre de voir au-delà de nos difficultés. Ayez ce cœur d'adorateur. L'adoration, c'est pas une option. C'est pas pour les hyper spirituels. C'est pas non plus pour le mouvement pentecôtiste. C'est pas pour les hyper émotifs. L'adoration, c'est pour le chrétien, pour l'enfant de Dieu. C'est un appel, qu'on soit des adorateurs. On sait qu'il y a une adoration qui monte à l'extérieur, mais nous sommes le peuple, un peuple qui veut l'adorer, le louer. Nous voulons voir, Seigneur, tel que tu es. Nous voulons l'adorer. Et il y a des trésors dans l'adoration, parce que si on l'adore de tout notre cœur, Dieu va nous dire, monte ici, et je te ferai voir. Je te ferai voir. Et qu'est-ce qu'il a vu, Jean ? Jean, il a vu une porte. Une porte. Quand vous êtes dans l'épreuve, qu'est-ce que vous cherchez ? Une porte d'entrée ou une porte de sortie ? Souvent, quand on est dans la difficulté, on aimerait avoir une porte de sortie. Mais Dieu nous offre une porte d'entrée. Une porte, amen, oui. La chair, elle est ainsi faite. Quand on est dans l'épreuve, on a tendance à vouloir s'en sortir, sortir de là, s'éloigner des voies de Dieu. Et puis, au fur et à mesure, la connaissance qu'on avait de Christ s'amoindrit. Et ça, c'est humain. Je vous lance pas une accusation, quelque chose qui vous culpabilise. Non, pas du tout, c'est humain. Mais le Christ, si la bonne nouvelle doit être prêchée ce matin, c'est que Jésus veut donner une porte d'entrée. Amen. Une porte d'entrée, non pas une porte de sortie. C'est l'histoire d'un rétrograde, donc quelqu'un qui, c'est le nom qu'on donne aux gens qui quittent la foi, qui se sont donnés au Seigneur, et à un moment dans des difficultés, il se retire. Et à un moment, il a été invité dans l'église à revenir. Bon, il revient. Et tout le long du chemin, il a vu des tas de portes de sortie. Donc, des cafétérias, d'aller dans tel ou tel endroit. Et il est quand même venu dans l'église. Il est quand même venu dans l'église. Mais il n'avait pas le cœur. Pas le cœur à louer, pas le cœur à participer à quoi que ce soit. Il était plutôt comme ça. Essaye de me bénir pour voir. Et donc il était assis. Pendant une heure environ, il était dans cette église et il regardait la porte de sortie. La seule chose qu'il avait en tête, c'était « je veux sortir ». Et il y a un moment, Dieu l'a touché et son adoration est revenue dans son cœur. Il est venu à l'appel et maintenant cet homme-là est un homme engagé. Mais tout au long de son parcours, il voyait des portes de sortie. Mais Dieu lui a donné une porte d'entrée, une porte d'entrée. Si on rentre dans l'adoration, Dieu veut nous donner une porte d'entrée. Et les deux dernières choses que j'aimerais voir, c'est le trône. On a lu que Jean voit le trône et l'arc-en-ciel. Dans l'adoration, Dieu nous donne une vision. Dieu veut te donner une vision de au-delà où tu te trouves. Jean voit le trône dans le ciel, un trône qui est fixé, qui est inébranlable. Et dans les moments de difficulté, si on n'est pas des hommes et des femmes d'adoration, On a tendance à oublier que Jésus-Christ règne et qu'il a un trône qui est immuable, un trône qui est éternel. Si on n'est pas dans cette quête d'adoration, l'adoration c'est important, hein, je répète encore, il faut adorer, il faut qu'on adore. On n'est pas des farfelus hein, si on adore, non pas du tout. On a besoin de la prière, mais on a besoin de cette contemplation, on a besoin de cette adoration. Donc pas d'une façon excessive ou fanatique, mais cette adoration. Seigneur, je veux te contempler, je veux t'adorer, je veux te recevoir. Et si on ne rentre pas dans cette adoration, on va très vite perdre la notion que Dieu règne, Dieu est sur son trône, et qu'il a un trône qui est fixe dans le ciel, et qui est inébranlable, et que sa parole est éternelle. Le dernier point que j'aimerais voir, c'est l'arc-en-ciel, et durant ce temps, j'aimerais que les musiciens puissent revenir sur l'estrade. L'arc-en-ciel aussi, il y a un beau message à travers l'arc-en-ciel. Je vais être très court hein, sur l'arc-en-ciel, mais il y a vraiment de belles choses. L'arc-en-ciel, la première fois qu'on le voit dans la Bible, c'est quand Noé, suite au déluge, il met le pied sur une nouvelle terre. Et il y a un arc-en-ciel qui est là. L'arc-en-ciel parle des choses anciennes. Et toute chose devient nouvelle. Hein? L'arc-en-ciel, c'est une nouvelle possibilité. Jean voit un arc-en-ciel. Il y a une symbolique à travers ça. S'il ne donne pas un arc-en-ciel pour donner un arc-en-ciel, Jean voit un arc-en-ciel. C'est la possibilité. C'est que ce qui est passé est passé et maintenant toute chose est devenue nouvelle. Maintenant, il y a une possibilité en Jésus-Christ. Ne pas toujours être sur cette crainte que les choses que j'ai connues auparavant vont obligatoirement se répéter. Et si on n'a pas cette vision, on va être un chrétien apeuré. Peur d'aimer, peur de ne pas être pardonné. Combien de chrétiens sentent qu'ils ne sont pas pardonnés? Ils reviennent sans cesse sur ce que Dieu a accompli et on a toujours l'impression qu'il y a toujours ce péché qui revient. On se dit on n'a pas été pardonné alors que Dieu, lui, il l'a oublié. Et l'arc-en-ciel, c'est ça. Jean voit un arc-en-ciel. Nouvelle possibilité. Noé avait vu l'horreur de ce qui s'était passé juste avant. Et Noé a mis les pieds sur une nouvelle terre. Et il a vu l'arc-en-ciel. Donc tout ce qui s'est passé avant n'a rien à voir avec ce qui va se passer maintenant. Et donc je pense qu'on peut avoir cette pleine assurance que Dieu veut nous montrer dans l'adoration ces choses merveilleuses. Si on pouvait jouer seulement la musique, j'aimerais tout simplement, d'une façon simple, faire un appel ce matin. Si on pouvait se recueillir là où on est, courber notre tête. Je prie vraiment que Dieu puisse toucher nos cœurs. Et on n'est que des hommes qui annonçons une parole qui est magnifique, une parole qui est merveilleuse. Parole qui est pleine de puissance. Non pas nous, non pas les hommes qui ont la puissance, mais l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu. Je voudrais m'adresser ce matin à des personnes qui se disent « Je suis sur l'île de Patmos ». Il y a des cœurs ici peut-être qui se ressentent loin de l'amour de Dieu. Peut-être que tu sens que personne ne peut te comprendre. Tout ce que tu vis, personne ne peut le savoir, personne ne peut te comprendre. Tu ne te sens pas écouté, tu te sens désespéré, en colère. Ta situation te paraît injuste, tu te sens seul. Tu as l'impression que Dieu t'a oublié et que tu es seul. Tu es sur cette île, comme nous l'avons annoncé, Jean était sur une île, l'île de Patmos. Mais Jésus-Christ s'est révélé à lui. Peut-être que tu te sens à un endroit où t'es loin des flots de bénédiction, t'es hors de la faveur, de la présence de Dieu. Ce matin, je veux seulement te parler, que l'Esprit parle à ton cœur pour que tu puisses l'adorer, là sur ton île ce matin, là où tu te trouves, l'île de la déception, loin de sa présence. Jésus, aussi veut nous donner cette fraîche révélation de ce qu'il est. Et j'ai besoin, c'est vrai, de cette fraîche révélation, Seigneur. Beaucoup de chrétiens sur la terre peuvent dire que ça fait des années que je marche avec Christ, ça fait des années que je le connais. Mais ce matin, ton cœur te dit, j'ai besoin d'une fraîche révélation de Jésus-Christ. J'ai besoin, Seigneur, de découvrir que tu es admirable, que tu es ce roi qui règne sur ce trône. Besoin de découvrir, Seigneur, que tu as tout entre tes mains, que tu n'es pas aveugle à ma situation. J'ai besoin de découvrir que tu es au milieu de nous. Nous voulons qu'il y ait une adoration qui monte dans nos cœurs ce matin, Jésus. Nous savons qu'il y a une adoration falsifiée à l'extérieur et nous voulons que toute chose ne soit pas influencée, Seigneur, mais que l'adoration réelle des cœurs des chrétiens, Seigneur, monte vers toi. Je te prie, Seigneur, que tu puisses bénir mes frères et sœurs et que tu puisses accorder ton onction sur ceux qui vivent ces moments de Patmos. Je voudrais seulement demander un geste pour ceux qui sentent qu'ils vivent ces moments de Patmos et qui voudraient adorer le Seigneur là où ils se trouvent, qu'ils puissent se lever à leur place. Et on va prier pour eux. On va prier pour les personnes qui se sentent sur cette île. Te renouveler, te donner une nouvelle vision de son trône. Et Dieu veut donner aussi cet arc-en-ciel. Toute chose d'avant est passée, maintenant toute chose est devenue nouvelle. Tu as été pardonné de tes péchés. Tu peux aller de l'avant avec le Seigneur Jésus-Christ. Adore-le là où tu es, sur cette île, cette île de Patmos, cette île de déception. Et le Seigneur veut se révéler à ton cœur d'une façon nouvelle. On va pouvoir prendre et élever nos voix. On va prendre ce chant qui dit adorons, adorons celui qui est digne d'être adoré. Adorons. Tous ceux qui veulent se lever pour l'adorer, bien qu'on puisse se lever. On va laisser les chanteurs le lever.